Radio Prague, les informations. Bonjour. À Prague, les présidents allemands et tchèques ont mis en avant leurs opinions opposées sur l'Union européenne. En visite dans le village martyr de Lidice, le président allemand a exprimé son respect aux victimes du nazisme. Et puis enfin, corruption, le très influent lobbyiste Marek Dalik a été relâché ce mercredi. Le président allemand Joachim Gauck était en visite en République tchèque ce mercredi avant de se rendre à Lidice, village de Bohême centrale rasé par les soldats allemands en 1942 suite à l'attentat mortel proféré contre le protecteur Reinhard Heydrich. Joachim Gauck a été reçu au château de Prague par son homologue tchèque Václav Klaus. Cette rencontre a été la confirmation que les deux chefs de l'État avaient des opinions très différentes de l'Union européenne, tandis que le président tchèque a mise en garde contre l'émergence d'un super État européen et l'effritement de la zone euro. Joachim Gauck a lui au contraire souligné la responsabilité résultant de l'idée d'Europe unie, rappelant notamment la réconciliation et la paix que le projet européen commun apportait au peuple des deux pays. De son côté, Václav Klaus a déclaré que l'Europe avait d'abord besoin d'une vision réaliste contribuant à sa prospérité. Et puis pour la première fois depuis 70 ans, un président allemand a visité le village martyr de Lidice, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Prague. Joachim Gauck s'y est en effet rendu ce mercredi après-midi accompagné de Václav Klaus. Un moyen pour lui, a-t-il affirmé, d'exprimer son respect aux victimes du nazisme. « Je ne voudrais pas parler d'autre chose ici, ce n'est pas le moment », a-t-il déclaré en faisant allusion notamment aux revendications des Allemands des Sudètes expulsés de Tchécoslovaquie après la guerre. Au cours de cette longue visite, Joachim Gauck a visité le mémorial, le musée, a déposé une gerbe au pied de la tombe commune des hommes de Lidice, puis a rencontré quelques personnes ayant survécu à la tragédie. Rappelons qu'en juin dernier, lors des cérémonies du 70e anniversaire, le président allemand avait déjà fait parvenir à son homologue tchèque une lettre exprimant sa honte face au massacre de Lidice et Léjaki, insistant sur la responsabilité historique de l'Allemagne. Arrêté lundi par la police anticorruption pour son rôle joué lors de l'achat de véhicules blindés Pandour pour l'armée tchèque, le lobbyiste Marek Dalik, ancien proche du Premier ministre Mirek Topolánek, a été remis en liberté ce mercredi. Le tribunal du 4e arrondissement de Prague n'a ainsi pas donné suite à la demande du procureur d'État qui réclamait sa mise en détention. Le requérant redoutait sa fuite du pays et une éventuelle manipulation des témoins de l'affaire. Selon la police, qui met une enquête sur cette transaction opaque depuis 2010, Marek Dalik est accusé d'avoir réclamé un pot de vin de 18 millions d'euros à la société autrichienne Steyr, qui fabrique et a vendu en 2009 plus de 100 véhicules blindés au gouvernement tchèque pour 560 millions d'euros, un montant très élevé pour de nombreux experts. S'il est reconnu coupable, Marek Dalik risque jusqu'à 10 ans de prison. Le 16e Forum 2000, le tout premier depuis la mort de son fondateur, l'ancien président Václav Havel, accueillera cette année notamment l'ancienne secrétaire d'État américain Madeleine Albright, le chef de file du gouvernement tibétain en exil Lobsang Sangay, et la députée serbe pour les affaires européennes Zuzana Grubjecic. Cette année, le Forum 2000 se concentrera sur le thème des médias et de la démocratie, un sujet proposé par Václav Havel à l'occasion de la clôture de l'édition 2011. Le Forum 2000 a été lancé, rappelons-le, par Václav Havel afin de rassembler de grandes personnalités intellectuelles et de réfléchir sur les enjeux du monde d'aujourd'hui. La conférence 2012 débutera le 21 octobre prochain. On termine avec un mot de météo. C'est un temps relativement ensoleillé qui règne sous la majeure partie du territoire ce jeudi, jour de la fête des Andrei. Des nuages toujours plus nombreux feront toutefois leur apparition au fil de la journée, notamment dans le nord-est du pays. Après avoir été négatives à certains endroits pendant la nuit, les températures varient entre 9 et 14 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Tout de suite, retrouvez Václav Richter pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous à l'écoute de Radio Prague. Au sommaire de ce magazine d'actualité, la construction en République tchèque du super laser Eli. Il s'agit d'un important projet européen. Nous visiterons ensuite un nouveau musée pragois dédié au maître de films d'animation tchèque Karel Zeman. Dans la rubrique historique, nous parlerons de l'épopée slave d'Alphonse Mucha, exposée à Prague. Merci de rester avec nous et bonne écoute. Mardi 9 octobre, le Premier ministre tchèque Petr Nečas et le ministre de l'Éducation Petr Fiala ont donné le coup d'envoi à la construction du principal élément d'un laser superpuissant. Le fait que ce projet européen ait été confié à la République tchèque est certes un grand honneur pour sa communauté scientifique, mais aussi une grande responsabilité pour tous les organismes chargés de sa réalisation. C'est dans la commune de Dolní Břežany, près de Prague, que sera construit un des trois centres de l'infrastructure ELI, qui sera un laser à impulsion ultra rapide dépassant par sa puissance toutes les installations existantes. Les deux autres centres de l'infrastructure seront situés en Hongrie et en Roumanie. La vice-présidente de la commission gouvernementale pour la recherche, le développement et les innovations, Miroslava Kopitsova, se félicite que ce soit la République tchèque qui ait été choisie pour réaliser ce projet.
Le laser ELI est important non seulement pour la République tchèque, mais c'est aussi un des projets européens les plus prestigieux dans le domaine des recherches et du développement. Il a été préparé pendant 3 ans par 40 organismes de recherche scientifique de 13 pays. C'est donc un exploit extraordinaire. Grâce à notre participation active lors des négociations et à un heureux concours de circonstances, dont le fait que nous disposons de fonds structurels, nous avons réussi à convaincre nos partenaires que ce projet devrait être réalisé en République tchèque et c'est un immense succès.
Et Miroslava Kopitsova a ajouté que si la République tchèque parvient à réaliser ce projet, cela élèvera de façon significative le prestige scientifique du pays au niveau mondial. Les travaux de construction qui commenceront au début de l'année prochaine devraient être achevés dans 4 ans. C'est un délai très court vu l'importance et la complexité du projet qui coûtera près de 7 milliards de couronnes, 280 millions d'euros. Le laser ELI est financé par l'Union européenne mais sa réalisation a déjà pris un certain retard. Il est donc possible que l'équipe de réalisation en République tchèque ne réussisse pas à puiser la totalité des subventions avant la fin de 2015. En ce cas, la Tchéquie devrait investir dans le projet encore quelques 350 millions de couronnes, 14 millions d'euros. Jan Křiš du ministère de l'Éducation espère néanmoins que la République tchèque ne sera finalement pas obligée de débourser cette somme.
En ce moment commencent les négociations avec la Commission européenne sur le financement du projet après 2015. Je suis donc optimiste et j'espère que la somme nécessaire sera également assurée pour la période suivante.
Les frais de fonctionnement et d'entretien du laser atteindront annuellement 400 à 500 millions de couronnes, 16 à 20 millions d'euros. Cependant, comme il s'agit d'un projet de portée mondiale, ces frais seront pris partiellement en charge par les États qui participeront. Le laser attire d'ores et déjà des chercheurs renommés d'Europe et du monde. Le directeur de l'Institut de physique de l'Académie des sciences, Tchèk Jan Žitký, constate.
Les chercheurs nous rejoignent individuellement et répondent à nos annonces. Il s'agit bien sûr d'experts de grands centres de laser dans le monde, mais nous accueillons par exemple aussi les Tchèques ayant été employés en Grande-Bretagne dans les laboratoires Rutherford ou au Conseil européen de la recherche nucléaire, le CERN. Ces chercheurs rentrent donc dans leur pays.
Grâce au laser ELI, 300 nouveaux emplois très qualifiés seront créés. Les scientifiques espèrent que cet équipement ultra sophistiqué et super puissant ouvrira une porte à de nouveaux domaines de la physique. Les résultats de son travail seront applicables dans les domaines des sciences, de la matière, de même que dans la santé ou la protection de l'environnement. ELI contribuera donc aussi, par exemple, au développement des méthodes de traitement du cancer, de l'imagerie médicale et du diagnostic. Le 6 octobre dernier a ouvert au cœur de Prague le premier musée consacré à l'œuvre cinématographique de Karel Zeman, le Méliès tchèque. Considéré comme un véritable pionnier de l'animation, Karel Zeman est à l'origine de nombreuses inventions qui ont révolutionné cette branche du cinéma. Anna Kubišta.
Au pied du pont Charles, sur l'île de Kampa, il est désormais possible d'échapper au brouhaha incessant des rues remplies de touristes et de se plonger le temps d'une visite dans l'univers fantastique de Karel Zeman, le père de l'animation tchèque. À l'origine de ce projet, deux fans inconditionnels de l'univers de Karel Zeman qui souhaitaient sortir une intégrale de ses films. Au final, une rencontre avec Ludmila Zemanova, la fille de Karel Zeman, et un musée, tandis que les films doivent sortir peu à peu à partir de la fin de l'année 2012 en version restaurée. Ludmila Zemanova est elle-même illustratrice. Elle se souvient de sa réaction lorsqu'on lui a présenté le projet. J'ai trouvé que c'était une excellente idée. Je voyage dans le monde entier avec mes livres et partout, ils connaissent mon père et ses films. On me demandait souvent pourquoi il n'existe pas de musée. Récemment, j'ai été au Danemark à une conférence autour de Hans Christian Andersen. Il a un musée comme celui-ci dans le même environnement et les gens m'ont à nouveau dit « Pourquoi n'y a-t-il rien d'équivalent sur le travail de ton père ?» Il y a un univers similaire. Donc, quand l'idée du musée m'a été présenté, je me suis dit que ce serait un cadeau inestimable pour les enfants. Tonalités sombres des murs couleur ardoise, sons étouffés qui rappellent ceux d'une respiration. Dès l'entrée, le musée plonge le visiteur dans une atmosphère de mystère et d'aventure. Andrei Beranek, cinéaste et un des auteurs du projet, détaille quelques éléments de l'exposition.
Les écrans sont un des éléments principaux de communication. On y voit des courts films de 2 à 3 minutes qui passent en boucle et qui expliquent les méthodes de tournage. Sinon, nous avons aussi tourné des séquences avec des témoins de l'époque qui ont évoqué leurs souvenirs de leur travail avec Karel Zeman. Il y a également de nombreuses reconstitutions de scènes de films qui montrent les procédés utilisés.
Roi de l'invention et de l'illusion, Karel Zeman, né en 1910 et décédé en 1989, a d'abord commencé comme réalisateur de films d'animation pour un autre roi de l'époque, celui de la chaussure, j'ai nommé Batia. Il passera ensuite au studio d'animation, toujours Aslin. Dans ses films, il invente des panneaux géants qu'il ajoute aux prises de vue normales, grâce auxquels il masque par exemple une église réelle par l'image d'un volcan. Mais il est avant tout un maître dans le mélange de toutes les techniques possibles, découpant maquettes, marionnettes qui lui permettent de recréer un monde à cheval entre réel et fantastique. Bien avant Spielberg, il fait remonter le temps à une bande de 4 garçons dans le voyage dans la préhistoire. Josef Lukáš, qui interprétait Petr dans le film, se souvient.
Ils m'ont choisi un peu par hasard. Certains des jeunes acteurs avaient déjà joué dans des films comme Petr Herman qui joue Tonik. Karel Zeman l'a choisi. Mais il cherchait encore 2 autres garçons. J'étais en 3e à l'époque. Les assistants de réalisation sont arrivés, ont observé les gamins. Pour le premier essai caméra, on m'a dit « Assieds-toi, un tigre va sauter de la fenêtre ». Il fallait jouer la surprise.
Le musée est centré essentiellement sur 3 grands films de Karel Zeman, Le voyage dans la préhistoire, L'invention diabolique et Le baron de Krak. La fin du musée balaye en une salle tout le reste de la création de Karel Zeman. Yacoub Fabel, graphiste, qui est aussi un des auteurs du projet.
Le musée est en constante évolution. Il change au fur et à mesure de la visite et on passe de film en film. Chaque partie de l'exposition a été réalisée selon le monde d'un film en particulier. Là où nous avons pu reconstituer un trucage, nous l'avons fait. Ici, nous sommes dans la pièce consacrée à l'invention diabolique, où nous avons reconstitué le grand sous-marin du film, ainsi que la machine qui actionne le plus petit sous-marin qui a des pattes de canard. Les enfants peuvent la faire fonctionner. Vous pouvez essayer de la faire tourner.
Animation, interactivité, découverte, tout est fait au musée pour susciter l'imagination, que ce soit celle des adultes qui n'ont pas oublié leurs jeunes années ou celle des enfants, aujourd'hui sans doute plus habitués aux ordinateurs et à la 3D réaliste plutôt qu'à la 3D fabriquée avec 3 bouts de ficelle.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Prague, émission en langue française. Depuis mai 2012, l'épopée slave, l'œuvre majeure d'Alphonse Mucha, un des maîtres de l'art nouveau en peinture, est de nouveau exposée à Prague, au Palais des Foires, Veletržní palác en tchèque. Kateřina Průšová est lectrice à la Galerie nationale de la ville de Prague et enseigne l'histoire de l'art à l'université anglo-américaine. Et c'est avec une grande gentillesse qu'elle a accepté d'être notre guide pour nous faire découvrir ce cycle de 20 tableaux qui illustre la vision très personnelle de Mucha sur l'histoire des peuples slaves. Elle nous donne aujourd'hui quelques clés pour comprendre cette œuvre avant de se lancer à corps perdu dans la visite. Pierre Maignan.
Chapitre de l'histoire.
Il fallait toute la majesté du Palais des Foires, situé dans le quartier d'Olechovice, dans un méandre de la Vltava à Prague, pour accueillir les 20 toiles aux dimensions non moins imposantes qui composent l'épopée slave d'Alphonse Mucha. C'est là que nous reçoit Kateřina Průšová, qui précise d'entrée que la visite pourrait durer des heures et des heures. Son enthousiasme est communicatif malgré le système de ventilateurs assourdissants qui accompagne notre discussion. Elle tient d'abord à préciser que ce n'est pas la première fois que l'épopée slave est exposée au Palais des Foires, et que l'œuvre n'a pas rencontré le succès escompté par son auteur.
Pour la première fois, c'était présenté au Veletržní palác, au Palais des Foires, où on se trouve maintenant, en 1928. Donc au 10e anniversaire de l'État tchécoslovaque, 19 toiles étaient exposées ici à cette occasion. En fait, le Palais des Foires, cette architecture fonctionnaliste, a été construite pratiquement en même temps que cette œuvre a été peinte. Donc, c'est deux facettes de l'époque complètement différentes, parce que vous voyez que ce cycle, c'est un cycle de la peinture historique, c'est un apogée de l'historisme, on peut le dire, le champ de signe de la peinture d'histoire. Et c'est ces 20 énormes toiles. Et c'est quelque chose de complètement différent de cette architecture fonctionniste. En fait, il faut y penser que cette œuvre a été créée à partir de 1911-1912 jusqu'à 1926. Donc dans la peinture, surtout, ce cycle est un anachronisme total. C'était déjà critiqué à partir de 1909, c'était déjà critiqué par les artistes modernistes comme un anachronisme.
Au début du XXe siècle, la peinture cherche de nouveaux terrains d'expression. L'œuvre de Mucha semble tout droit sortir du siècle passé quant à elle. Elle est critiquée de toutes parts et également par les historiens qui lui reprochent, on le verra, d'avoir une conception très personnelle de l'histoire des Slaves. Toutes ces critiques étonnent Mucha alors qu'il avait annoncé vouloir faire don de son œuvre à la ville de Prague.
Mucha en était trop surpris, finalement, parce qu'il pensait que Prague va accepter son don avec des bras grands ouverts. Il était très ami aussi avec Valchanek Polivka, c'était les deux architectes de la maison municipale. Donc vous savez peut-être qu'il a peint sans se faire payer, il a peint gratis la salle du maire de Prague à la maison municipale, ce qui était très très critiqué déjà à l'époque. Et les mêmes architectes, Valchanek Polivka, ont projeté un pavillon rotond pour cette épopée slave qui devait être construite à Petrine. Mais il y avait une telle critique de tous les artistes et du public que ces pavillons n'ont pas été construits, puisqu'ils ont dit qu'il y a des artistes bien plus importants.
La ville de Moravski Krumlov en Moravie du Sud a exposé l'épopée slave de 1963 à 2011 et conteste le transfert des toiles à Prague au motif que le fameux pavillon n'ait jamais vu le jour. C'était la condition posée par Mucha en échange de son don. Mais pour Kateřina Průšová, cette polémique n'a pas lieu d'être.
De toute façon, ces toiles ont été offertes à Prague par Mucha. Mucha les a peintes gratuitement pour la ville de Prague. Elle s'est fait payer seulement. Il a trouvé son sponsor personnel, un mécène américain, Sir Richard Crane, qui lui a payé ses dépenses parce qu'il a dû voyager. Il a voyagé beaucoup. Il est allé en Grèce, il est allé en Russie, à Moscou pour s'imbiber de l'atmosphère. Donc il s'est fait payer bien sûr les couleurs, les toiles, mais il ne s'est pas fait payer pour le travail.
Pourquoi alors Moura a eu l'envie de faire cela? Est-ce que c'était justement aussi dans une tentative de réaffirmer peut-être les valeurs et des Tchèques qui n'avaient peut-être pas encore de pays en 1914? Est-ce que c'était justement pour exacerber un petit peu le patriotisme, le nationalisme slave?
Tout à fait. En fait, il a consulté son travail avec le président de la Première République tchécoslovaque, avec le futur président Tomáš Garrigue Masaryk. Donc celui-là l'a beaucoup influencé, et en fait on peut comprendre mieux son œuvre en lisant Masaryk qu'en lisant l'histoire tchèque, parce qu'il ne choisit pas des sujets très typiques. Il a un choix très personnel des sujets des tableaux. Il souligne beaucoup la réformation, la union, la jednota bratrská en tchèque, c'est l'union fraternelle. Masaryk a considéré Jan Hus comme la personnalité la plus importante de l'histoire, et que cette personnalité est aussi soulignée dans l'œuvre de Moura. Moura, en fait, il évite des saints catholiques populaires comme Saint Václav ou Svatý Jan Nepomucký, Saint Jean de Nepomuk. Il ne traite pas du tout, parce que aussi Masaryk, il a converti vers la religion protestante, vers le protestantisme. Plus tard, il a souligné beaucoup le rôle de l'Église hicite. Donc Moura fait tout à fait la même chose. Un autre moment super important dans cette très très important dans ce cycle, c'est la franc-maçonnerie de Moura. Donc pour comprendre ce cycle, il faut lire Masaryk et il faut s'intéresser dans les francs-maçons, parce qu'il y a beaucoup de symboles de francs-maçons.
C'est d'ailleurs son appartement à la franc-maçonnerie qui le conduira à la mort, puisqu'en juillet 1939, les nazis l'arrêtent à son domicile pour cette raison. Il décédera quelques jours plus tard à l'âge de 78 ans. Armé de ces quelques précisions, nous pouvons entamer la visite, et ce qui surprend tout d'abord, c'est la relative complexité de la répartition des tableaux dans cette salle immense. Katarzyna Pruchova.
Le système de ces tableaux est assez compliqué, même pour Moura lui-même. Il y a 10 tableaux qui sont dédiés à l'histoire tchèque, à l'histoire de Bohème, et 10 tableaux qui sont dédiés aux autres pays slaves. Et même dans ces systèmes, il y a un système qui touche la religion, qui touche l'histoire, etc. Donc ces trois premiers tableaux créent une unité, une certaine unité. C'est les Slaves dans leur première patrie, dans leur patrie originale.
Une toile de 8 mètres de largeur sur 6 mètres de hauteur pour une mise en scène très recherchée de l'esprit des premiers temps de l'âme slave. Katarzyna Pruchova nous la décrit.
Les Slaves dans leur première patrie sont représentés par ces deux Slaves anonymes, Adam et Ève, des Slaves, qui nous regardent avec les yeux grands ouverts, qui sont évidemment terrifiés par tous ces soldats qui arrivent pour les chasser de leur première patrie. Et vous voyez qu'on ne peut pas dire absolument s'il s'agit d'un homme et d'une femme ou d'une mère avec un enfant. Ça reste ambigu. C'est ce que Moura a beaucoup aimé, de laisser un peu espace pour l'imagination.
Cette première triptyque a pour but de nous introduire à la mythologie slave, et le deuxième tableau, foisonnant de personnages, nous présente le culte d'un dieu slave.
Le second tableau, c'est la célébration, la fête de Sventovit à Rujana. Rujana, ou Rügen en allemand, se trouve à la mer Baltique. Et c'est un événement qui aurait lieu au XIIe siècle peut-être. C'était une île qui a résisté à la christianisation pendant très très longtemps. Donc on peut voir une très grande fête païenne, où c'est une fête après le moisson, où il y a beaucoup de participants. Et dans la partie du tableau, on voit des personnages mythologiques. Donc on voit le Sventovit, qui était le dieu à quatre têtes, le dieu des Slaves. Il a son cheval, il est assis sur son cheval blanc, son attribut c'est le cheval blanc, et un épée. Et ce Sventovit
toujours plutôt paisible, pourtant, le dieu de la plénitude, disons, est attaqué par Thor, qui est un dieu germanique avec ses loups qui vient attaquer la paix des Slaves. Cet or doit symboliser le roi danois Valdemar qui a attaqué Rouyana, Rouyana au XIIe siècle. Et le culte de Saint-Ovid a été détruit.
Katarzyna Pruszowa poursuit.
Mais ce qui est intéressant sur ce tableau, on a parlé de franc-maçonnerie de Mukran. Ce jeune homme qui se dédie à l'art, il est en train de faire un idole où le symbole du soleil grandisse, pousse des symboles de cœur. Donc Moucha, il oppose les Slaves qui se dédient à l'art aux Germans qui sont destructeurs.
Elle tient également à faire remarquer les regards soutenus adressés par une mère et son enfant aux spectateurs. Comme souvent dans l'œuvre de Moucha, les personnages principaux ne sont pas mis en avant. Il s'agit pour lui d'insister sur le fait que ce sont les gens ordinaires qui sont les véritables acteurs de l'histoire. L'initiation à la liturgie slave se poursuit avec le dernier élément de ce triptyque.
Donc ici, le troisième tableau, c'est l'introduction de la liturgie slave. Et on peut voir aussi deux niveau de la réalité. On a les saints slaves dans la partie haute du tableau et l'événement historique dans la partie basse. Ils sont différenciés par les couleurs aussi. Ce qu'on voit dans la partie basse, c'est ces méthodes, je pense, qui lit la lettre de pape. Qu'on peut continuer avec la liturgie slave parce que vous savez que la liturgie slave a été interdite par le pape et après c'était autorisé à nouveau.
Importance de la symbolique maçonnique, confrontation entre slaves et germains, imbrication du surnaturel et du réel, mise en scène des événements historiques, autant d'éléments que l'on retrouvera régulièrement dans la suite de la visite. Des éléments qui n'ont rien à voir avec une démarche scientifique de représentation de l'histoire, comme le confirme Katarzyna Pruszowa.
Ce serait très difficile, ce serait impossible d'enseigner l'histoire d'après ce tableau. Ce n'est pas une illustration de l'histoire que Moucha fait, c'est plutôt une image d'histoire. Parce que la conception de Moucha, de l'histoire, c'est plutôt pénétrer à l'essence idéale de l'histoire que de raconter l'histoire chronologiquement. Donc c'était pas ce qu'il a voulu.
L'œuvre de Moucha attise cependant la curiosité sur cette histoire slave, relativement méconnue, et la richesse symbolique de l'œuvre ne laisse pas indifférent. Radio Prague vous propose de poursuivre la visite dans la prochaine édition de ces chapitres de l'histoire.
Dans le cadre de la rubrique historique de Radio Prague, Pierre Maignan nous a invités au palais de foire de Prague où est exposée l'épopée slave, œuvre majeure d'Alphonse Moucha. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.fr.